Le message du docteur Martin Junot peut se résumer en quelques phrases très explicites.
Des gens qui mangent 5 fruits et légumes, au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, c'est pas encore tout à fait 50% et ça devrait être 100%. Ça, c'est pour les fruits et légumes, mais vous avez aussi toute la malbouffe qui est consommée en très grande quantité. Et moi, je dis toujours, nos gènes n'ont pas changé en 30 ans. C'est clair que c'est l'environnement, c'est ce qu'on mange. Oui, un peu l'activité physique, on pourrait en faire plus, mais globalement, c'est un problème d'alimentation. Comment ça se fait qu'on produit si peu de fruits et légumes par rapport à notre consommation? Je pense que c'est 5 à 8 % là, de ce qu'on consomme qui est produit ici. Alors, avec l'électricité puis l'eau, on pourrait avoir des serres en grande quantité avec un bon système de distribution et produire des fruits et légumes de grande qualité, local, même bio, sans dépendre de nos voisins du Sud. Et de l'Ontario. Ça serait bon pour l'environnement, ça serait bon pour la santé, mais on ne sent pas tellement de volonté politique.
Des moyens très concrets et réalistes pourraient donc être pris pour alléger le poids qu'impose à la société les problèmes majeurs de santé que sont particulièrement l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Pourquoi, par exemple, ne produirions-nous pas bien davantage de fruits et légumes, en champs et en serres, puisque nous avons tout ce qu'il faut? Voici donc la première partie de l'entretien que j'ai eu avec le docteur Martin Junot sur le thème de la mauvaise alimentation, principale source des problèmes de santé.
Absolument, je ne suis pas le seul à le dire. Aux États-Unis, par exemple, le docteur Mozafarian, le directeur de la prévention dans une grande université américaine, dit toujours que les risques diététiques, il appelle ça comme ça en anglais, là, sont la principale cause de mortalité prématurée dans nos pays. Alors, la malbouffe en général, quand vous pensez à ça, les maladies cardiovasculaires et les cancers sont les premières causes de mortalité dans nos pays, de mortalité prématurée. Et du côté des maladies cardiovasculaires, on sait que 85 % de ces pathologies-là sont évitables si on avait des habitudes de vie excellentes. Et parmi les habitudes de vie les plus importantes, c'est l'alimentation. On oublie le tabac parce que c'est vraiment la pire habitude de vie, mais on parle maintenant de 18-20 % de la population qui fume. Donc, c'est encore un gros enjeu, mais quand même, de plus en plus, le tabagisme est abandonné par les gens. Là. Puis on s'attend que, en tout cas, on espère, dans nos sociétés, que ça baisse là, drastiquement au cours des 10-15 prochaines années. Alors, il reste l'activité physique puis l'alimentation. L'activité physique, ça n'a pas bougé depuis 25-30 ans. Il y en a qui pensent que ça a diminué beaucoup avec les écrans, mais quand on regarde les chiffres, c'est pas impressionnant la baisse. C'est assez constant. C'est pas assez. Il y a moins de 50 % des gens qui font de l'activité physique. Mais maintenant, quand on regarde l'alimentation, il y a encore beaucoup, si on parle du Québec, de Québécois qui ne mangent aucun légume. On parle d'environ 25 % là, des Québécois qui ne mangent pas de légumes. Alors, des gens qui mangent 5 fruits et légumes, au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, c'est pas encore tout à fait 50 % et ça devrait être 100 % Ça, c'est pour les fruits et légumes, mais vous avez aussi toute la malbouffe qui est consommée en très grande quantité. Alors, quand on regarde ça d'un point de vue global, c'est clair que là où on a le plus de progrès à faire, c'est du côté de l'alimentation. La malbouffe, elle est accessible partout, 24 heures par jour, et c'est pas très cher. En dollars constants, les boissons sucrées coûtent moins cher qu'il y a 30 ans. Un hamburger coûte moins cher qu'il y a 30 ans en dollars constants, à cause des subventions, de tout le système qui est fait comme ça. Alors que les fruits et légumes coûtent environ 40 % plus cher. Alors, je dis pas que c'est hors de prix, il y a moyen de trouver des légumes pas cher, mais c'est difficile. Il faut être pas mal informé, il faut magasiner pas mal. Moi, j'ai souvent des patients qui me disent « Vous recommandez du brocoli, des poivrons, mais c'est pas achetable. » Ils ont pas tort. C'est assez dispendieux. Alors que de la malbouffe, c'est pas du tout dispendieux. Alors moi, je pense que je suis pas le seul à le dire. L'OMS, il y a 2 ou 3 ans, un comité de l'OMS, Dr. Olivier de Schutter est venu au Canada, puis il a fait un rapport assez dévastateur sur notre système en disant une société qui n'est pas capable de mettre ses priorités aux bonnes places, qui subventionne les choses qui sont moins bonnes pour la santé qui ne subventionnent pas les choses qui sont bonnes pour la santé, mais ça, ça devrait être réformé. Et c'est exactement ça qui se passe chez nous. Vous avez beaucoup plus de subventions pour l'élevage, le porc, le bœuf, les grains pour nourrir les bêtes que pour les maraîchers, par exemple. Alors, on dit aux gens à manger des fruits et légumes, mais on les aide pas. Et c'est le nerf de la guerre, les prix. Alors moi, je répète depuis très longtemps, c'est bien beau les campagnes, manger des fruits et légumes, mais faut que ça soit accessible à bon prix. Et moi, je le dis depuis longtemps, puis je suis pas le seul à le dire, comment ça se fait au Québec, on a de l'eau en quantité comme aucun autre pays, on a de l'électricité pas chère. Comment ça se fait qu'on produit si peu de fruits et légumes par rapport à notre consommation? Je pense que c'est 5 à 8 % là, de ce qu'on consomme qui est produit ici. La plupart des fruits et légumes viennent, on me dit, du sud de l'Ontario. Quand c'est pas disponible là, ben ça vient du Mexique, du Chili. Alors, avec l'électricité puis l'eau, on pourrait avoir des serres en grande quantité avec un bon système de distribution et produire les fruits et légumes de grande qualité, local, même bio, sans dépendre de nos voisins du Sud et de l'Ontario. Ça serait bon pour l'environnement, ça serait bon pour la santé, mais on ne sent pas tellement de volonté politique. En tout cas, moi, j'entends pas ça tous les jours dans les médias.
Et d'ailleurs, vous avez fait référence à M. de Schutter, qui était venu représentant de l'ONU et qui avait fait une tournée canadienne et qui avait été très mal reçu par le gouvernement de l'époque à Ottawa.
Exactement. Je me souviens très bien de la réaction du gouvernement Harper à l'époque, qui avait dit, dans le fond, essentiellement, qu'il se mêle donc de ses affaires. Moi, j'avais lu le rapport, je l'avais trouvé excellent. C'était juste un constat, là, comme quoi on subventionne peu les bons aliments et on subventionne ce qui sert à la production de la malbouffe, dans le fond. Il recommandait, par exemple, que comment ça se fait que le marketing de la malbouffe est une dépense applicable là, aux impôts des entreprises. Ça ne devrait pas l'être. Alors, il dit, on le paye 3 fois. On le paye en subvention mal guidée, cette politique-là, là, de subventionner des produits qui ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Deuxièmement, on le subventionne via le marketing qui est déductible. Puis troisièmement, on paye les coûts de santé reliés à ça. Alors, vous regardez l'obésité depuis les années 80, ça a triplé dans notre pays. Les autres aussi, remarquez. Mais c'est quand même étonnant de penser que depuis 1980, on a maintenant des taux d'obésité vraiment alarmants. On a le diabète, de ce qu'on appelait avant le diabète de l'adulte, le diabète de type 2, qui est essentiellement une pathologie reliée à l'excès de poids. Eh bien, on ne voyait jamais ça chez les jeunes. Quand moi, j'ai fait mon cours de médecine, on appelait ça le diabète adulte. Maintenant, on n'appelle plus ça le diabète adulte parce qu'on le voit à 15 ans, 18 ans, 20 ans. On voit maintenant de la stéatose hépatique non alcoolique. C'était très rare avant. On voit ça chez l'enfant maintenant. C'est une infiltration graisseuse du foie par un excès de sucre, entre autres. Et c'est toutes des nouvelles pathologies qui sont vraiment catastrophiques pour nos sociétés et qui sont liées à l'alimentation. Et moi, je dis toujours, nos gènes n'ont pas changé en 30 ans. C'est clair que c'est l'environnement, c'est ce qu'on mange. Oui, un peu l'activité physique, on pourrait en faire plus, mais globalement, c'est un problème d'alimentation.
Et là, je sais que la question n'est pas simple parce que oui, les gouvernements peuvent peut-être faire des choses, mais il y a pour beaucoup une sensibilisation, une connaissance et une décision qui doit venir des citoyens, oui. Des gens eux-mêmes.
Oui. C'est sûr que si vous parlez aux représentants de l'industrie de la malbouffe, ils vont vous dire que ce n'est pas au gouvernement de se mêler de nos assiettes. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'ils s'en mêlent déjà. La preuve, ils subventionnent certains produits qui sont néfastes. Mais oui, c'est important, l'enseignement. Mais si on prend l'exemple du tabac, peut-être c'est caricatural, mais l'industrie du tabac disait la même chose. Pas au gouvernement de dire aux gens quoi faire ou quoi pas faire. Et c'est quand le gouvernement, au lieu de se contenter de faire de l'enseignement contre le tabac, tu sais, faire des campagnes de sensibilisation aux méfaits du tabac, c'est quand le gouvernement a pris des moyens importants, coercitifs, comme c'est plate d'employer le mot coercitif, mais des taxes, l'interdiction dans les endroits publics, etc. C'est là que vous avez vu des baisses drastiques du tabagisme. Alors, pour faire le parallèle avec l'alimentation, je ne dis pas qu'il faut être coercitif, mais c'est pas seulement de l'éducation. Ça prend des mesures dans tous les secteurs de la société. Moi, je dis toujours, c'est pas au ministère de la Santé que revient toute la question de la santé, de la prévention. Il faut que tous les ministères s'en mêlent. Puis ça, c'est très bien. Le gouvernement du Québec s'est doté d'une politique de prévention gouvernementale. Ça veut dire que c'est pas isolé au ministère de la Santé. Alors, par exemple, favoriser le transport actif, le zonage autour des écoles. Comment ça se fait qu'on peut établir des chaînes de malbouffe devant un cégep, devant une école secondaire? C'est partout au Québec, hein, vous voyez arriver la malbouffe là, immédiatement quand il y a des gros établissements d'enseignement. Moi, j'habite à Longueuil, à côté du cégep de Longueuil puis de la grosse école Rousseau, le secondaire. Vous avez au moins 4 restaurants de malbouffe qui sont pleins le midi. Alors ça, c'est une mesure qui ne coûte rien. On pourrait faire du zonage. Je sais qu'il y a des villes, des municipalités au Québec qui l'ont fait ou qui y pensent. Bon, la question très délicate, pas délicate, mais controversée, c'est taxer les boissons sucrées. Il y a des pays qui l'ont fait, des juridictions qui l'ont fait un peu partout dans le monde avec succès. C'est sûr que c'est décrié beaucoup par l'industrie. Mais dans l'opinion publique au Québec, les sondages montrent que 75 % des gens seraient favorables, en autant que les profits de la taxe seraient redistribués pour aider les gens à faible revenu à mieux s'alimenter. Ça peut être sous forme de coupons ou réductions, ou ça se fait dans plusieurs juridictions aux États-Unis, entre autres. Alors, tout le monde est d'accord dans le monde que la crise de l'obésité puis des maladies chroniques qui sont liées à l'alimentation, c'est un ensemble de mesures. C'est pas une mesure simple comme taxer les boissons sucrées, là. C'est une parmi d'autres, mais il faut agir à tous les niveaux. Rendre les aliments plus accessibles, les bons aliments plus accessibles, puis rendre les autres peut-être moins accessibles par zonage, peut-être taxation. Et vraiment qu'on parle tous le même langage pour dire, bon, on veut que les gens mangent mieux, on va s'organiser pour que ça soit facile de bien manger.
Ici Lionel Levac. Donc, le rôle de l'État est crucial dans la lutte à l'obésité, au diabète et aux maladies cardiaques particulièrement. Selon le docteur Martin Junot, ce rôle devrait être préventif, ne serait-ce qu'en assurant que l'agriculture québécoise fournisse davantage de fruits et légumes frais, été comme hiver. Et c'est sur cette voie que je poursuivrai dans mon prochain blog ma discussion avec le cardiologue, directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. Au revoir.